Radio Saint-Ferréol et Erdiwa présentent Il est une vallée, une série non achevée de ce qui soutient la vie sur notre territoire.
Parole d'ici,
de là.
Quand tu vas t'intéresser aux choses, elles vont finir par te parler.
Portrait d'adhérents, d'adhérentes de l'association Biovallée. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour cette émission, Il est une vallée, pour ce portrait d'adhérent, nous allons rencontrer Carpe et Capucine. On se trouve donc à L'Oriol, au jardin de Bérangère, au jardin de Bérangère, où l'on trouve le site expérimental de Carpe et Capucine. Donc je suis en compagnie de
Laure.
De Laure, qui va pouvoir un petit peu m'expliquer qui sont les acteurs et les actrices de Carpe et Capucine, qu'est-ce qui se passe ici dans ces jardins, et on va pouvoir explorer ça et puis discuter toujours encore du thème de l'agriculture. Je te laisse te présenter et oui. Essayer de présenter Carpe et Capucine le plus globalement possible, si tu y arrives.
D'accord. Donc, je m'appelle Laure, je suis agricultrice à L'Oriol avec mon mari. Donc, nous, on est plutôt dans l'arboriculture. On fait des pommes, des kiwis et des abricots, un peu de petits fruits rouges. Donc, ça, c'est ce qu'on fait traditionnellement depuis une trentaine d'années sur l'exploitation. On s'est rapproché d'une autre ferme, donc le jardin de Bérangère, qui se trouve aussi à L'Oriol. Et on a créé une association qui s'appelle Carpe et Capucine. Donc dans cette association-là, il y a moi, mon mari, Bérangère, son mari, et le cinquième élément, qui est Valérie, qui n'est pas du milieu agricole, qui apporte un regard extérieur très très enrichissant à cette expérience. Donc l'activité de Carpe et Capucine, c'est l'aquaponie, c'est de l'agriculture, une vieille méthode remise au goût du jour, remise au goût 2020, si on peut dire. C'est une méthode de production qui couple un élevage de poissons et des plantes maraîchères. Donc les poissons et les plantes maraîchères sont sur le même circuit d'eau. C'est un circuit fermé. Et c'est une boucle vertueuse qui permet de produire à la fois des protéines animales pour se nourrir, des végétaux, et tout ça sans utilisation ni de pesticides, ni d'engrais chimiques, ni d'antibiotiques sur les animaux. Voilà.
Est-ce que peut-être dès maintenant, tu pourrais nous donner quelques détails techniques, nous expliquer un peu comment ça fonctionne?
Oui,
au niveau des installations
et... Oui, alors on va faire très simple, bien sûr. Après, tous ceux qui auront envie, on les accueillera sur la ferme volontiers. Alors, de façon très simple, on a des poissons qui se trouvent en bassin, hors sol, dans des grandes piscines finalement. Et on va pomper l'eau de ces poissons, les envoyer dans des plantes maraîchères qui se trouvent hors sol sur des supports de culture, alors avec ou sans substrat, donc ou les pieds dans l'eau, ou les pieds dans des billes d'argile ou dans de la fibre de coco par exemple. Et cette eau-là va passer dans les plantes et comme elles sont hors sol, va pouvoir retourner aux poissons. Donc l'intérêt de ce système, c'est que les poissons salissent l'eau, ils l'enrichissent, et les plantes, elles utilisent les nutriments qui sont dans l'eau pour croître, pour grandir, pour fructifier, et du coup elles nettoient l'eau. Donc c'est pour ça que, en fait, le déchet des uns va faire la ressource des autres.
Quelles plantes on trouve dans ces cultures?
Alors en aquaponie, on peut faire beaucoup beaucoup de choses. Le plus difficile, ça va être de faire des racines, puisqu'il faut un substrat un peu particulier, meuble. Non, on n'a pas de terre dans l'aquaponie, donc il faudrait adapter avec du sable, ce qui se fait aussi. Mais classiquement, en aquaponie, on fait beaucoup de plantes à feuilles. Alors des blettes, des plantes aromatiques, des salades. Et nous, sur Carpe et Capucine, on fait aussi du poivron, de la tomate, des fraises.
Donc vous êtes 4 agriculteurs, agricultrices, éleveurs, éleveuses aussi, on pourrait...
Ah, maintenant, on est devenus pisciculteurs, effectivement.
Des pisciculteurs, piscicultrices. Comment vous répartissez un peu les rôles dans cette histoire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être plus axé sur la partie maraîchage et s'occuper des plantes, et d'autres plus de l'élevage, ou comment est-ce que ça fonctionne?
Alors, en fait... sur les trois dernières années, donc avec ce site expérimental, on s'est attaché à ce que tout le monde fasse tout, se forme sur tout, soit polyvalent en fait. C'est très technique l'aquaponie et du coup effectivement il y a de nombreux postes, de nombreuses compétences à acquérir. Donc il y a la partie agricole classique, végétale, où là bon, on apporte toute notre expérience. Il y a la partie poisson, où là tout était à découvrir, où on s'est formé. Et il y a la partie vente aussi, on va à la ferme nos produits. Donc tout ça en fait on s'est vraiment, on a mis un point d'honneur à être tous formés en même temps sur un peu tous les postes. Parce que notre projet, ben, c'est d'en faire un métier à part entière. C'est ce qu'on va développer sur 2022. Et là, par contre, effectivement, il faudra se répartir les tâches, mais il y a toujours des vacances, des malades, et il faut savoir tout faire.
Voilà. Et comment, justement, vous vous êtes formé? Par quoi est-ce que c'est passé? Est-ce que ça a été fait de façon autodidacte ou est-ce que vous êtes allé vers des centres de formation?
Alors d'abord, on a fait beaucoup de recherches. Alors maintenant, par rapport à il y a 20 ans, Internet, c'est fabuleux parce qu'on peut aller gratter partout dans le monde. Donc ça, c'est génialissime, mais ça ne suffit pas. La deuxième chose, c'est qu'on a appris avec notre site de production pilote, effectivement. Et puis, on a fait des formations auprès de professionnels, hein, en pisciculture notamment. On a revu les bases aussi de la physiologie végétale. On a repris un peu tout ça pour arriver à être performant, à comprendre le système. Parce que ce système vertueux qui est hors sol, il n'est pas dénué de vie. Bien au contraire, il est très complexe, mais il est plein de vie. Donc il fallait vraiment comprendre la physiologie végétale, le fonctionnement des bactéries, leur importance dans un milieu, et puis les poissons, apprendre à les observer, à détecter des problèmes ou de maladies ou de comportements. Voilà, il faut comprendre leurs besoins.
Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Est-ce que justement le temps d'arriver à comprendre comment tout ça peut fonctionner en harmonie, est-ce que vous vous êtes un peu heurté justement à des difficultés
Non, avec le recul, je dirais que sur 3-4 ans, là, on ne sait pas vraiment... d'abord, on est une équipe, donc ça fait 5 cerveaux qui fonctionnent et du coup, on peut... Quand on part à la recherche d'une information, ça peut être très très efficace. Et puis, on a pris le temps. On s'intéresse au sujet depuis 2017. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs, mais avec le temps et puis de la volonté. Et puis, l'aquaponie, c'est tellement... ça met le cerveau en ébullition. Il y a tellement de questions que... Non, finalement... On a trouvé toutes les réponses.
Mais j'imagine que c'était quand même un espèce de pari, peut-être, qui peut être un peu risqué.
C'est un pari risqué, mais c'est pour ça qu'on a démarré par un site d'expérimentation, petit. Donc là, on est sous une serre de 300 mètres carrés pour réaliser ce cercle vertueux poisson-plante. Et on s'est dit que, justement, avec cette serre-là, on allait voir si c'est possible d'en faire un métier.
Et là, maintenant, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que, justement, là, vous avez l'impression que c'est possible?
Oui, c'est possible. C'est possible. D'ailleurs, on est en train de développer. Il manque encore quelques éléments administratifs, mais en 2022, on devrait développer l'activité et nous convertir nos activités 100% à l'aquaponie, en faire un métier à part entière pour toute l'équipe. Donc ça, c'est notre projet 2022.
J'aimerais savoir comment est-ce que vous vous êtes trouvés tous les cinq.
Tous les cinq, oui. Alors, avec ma collègue maraîchère, donc Bérangère, là où on est aujourd'hui, la ferme qui accueille la petite serre pilote de Carpe Capucine, on se connaît aussi dans la vie, grâce aux enfants, à l'école, hein, tout simplement. Donc ça fait très longtemps. Et puis on a travaillé au moins 10-12 ans ensemble là, ces dernières années dans nos activités classiques d'agriculture classique. Puis on a eu la chance de découvrir une expérimentation sur l'aquaponie à L'Oriole, qui était effectuée dans des conditions un peu différentes. C'était complètement à l'intérieur. C'était ce qu'on appelle indoor avec des lumières artificielles. C'était une expérimentation très intéressante et qui nous a captivés et où on s'est rencontrés sur ce sujet-là tous les cinq. Et voilà, suite à cette année d'observation dans cette expérimentation-là, on a décidé de faire quelque chose ensemble en fait. Voilà, on a eu de la chance et c'est vraiment le hasard qui est bien fait, on va dire.
Toi, tu faisais quoi avant d'être dans cette expérimentation-là ?
Donc moi, je suis conjointe collaboratrice dans l'exploitation agricole de mon mari. Donc on fait des fruits. Donc on produit, on vend. Voilà.
Oui,
on produit, on vend en direct. Donc voilà, on a plusieurs réseaux de commercialisation, mais notamment celui qui nous tient à cœur, c'est la vente directe. On fait des marchés. Ça, c'est celui qu'on préfère.
Et cette activité-là, vous l'avez gardée
Donc pour l'instant, on continue à avoir cette activité-là. On a réduit un peu la voilure, comme on dit, on a réduit un peu les surfaces pour qu'il y ait une transition plus souple vers l'aquaponie, parce qu'il va être très difficile de mener les deux de front. L'aquaponie, c'est chronophage hein, quand même.
Et qu'est-ce que vous allez faire de vos cultures
Nous, c'est les cultures spécialisées qu'on va réduire, les fruits. Pommes, kiwis, tout ça. Après, toute la partie céréales, on va la garder. On va garder l'exploitation en vie, mais on va prendre des cultures moins spécialisées, donc grandes cultures surtout, et puis qui demanderont moins d'investissement en temps surtout. Donc, elle va subsister, la ferme.
Je vais te proposer d'écouter une parole d'une femme qui s'appelle Danielle Meureau, qui est présente dans le Diwa et qui a été bergère et qui après s'est spécialisée dans le soin aux animaux par le biais de l'homéopathie.
Quand je vois des jeunes qui s'installent et qui font brebis, plantes médicinales ou maraîchage, qui mixent les trucs, je dis bravo, bravo. Nous, on n'a pas fait ça parce qu'on est arrivé aussi dans la logique, qu'il fallait faire qu'un truc. Et puis, Vachère ne convient pas nécessairement à tout. Là, je dis bravo, bravo. Si les gens peuvent voir qu'on peut tout faire ensemble en petite surface et avoir un plus petit troupeau et s'unir avec d'autres copains ou pas copains pour faire de l'élevage, du maraîchage et tout, là, je dis bravo, quoi.
C'était Danielle qui nous parle de son admiration, on va dire, pour les personnes qui arrivent à multiplier les productions, en tout cas varier les productions et essayer d'être peut-être plus complet, plus complète. Est-ce que ça te parle ? Est-ce que justement c'est ce que vous essayez de mettre en pratique ?
Alors nous, ça nous parle puisqu'on va avoir plus réactivité, élevage et puis production verte, enfin végétale. Je pense que c'est important de revenir aux fermes polyculture élevage d'antan. Finalement, elles permettaient une autonomie sur les territoires, ça c'est sûr. Et puis c'est moins dangereux quand il arrive un pépin sanitaire ou on connaît bien le gel de 2021 par exemple sur les fruits d'été, mais d'hiver même, les pommes aussi ont gelé. Donc c'est important de multiplier les activités, mais c'est pas facile. C'est même très compliqué dans notre monde d'aujourd'hui où on demande de la performance, du rendement sur chacun des postes. C'est compliqué, d'où l'intérêt d'être une équipe aussi comme on l'est aujourd'hui, nous, sur Carpe Capucine. Ouais. Ça facilite les choses.
Qu'est-ce que ça vous permet dans les faits ?
Déjà, dans un premier temps, d'affronter les problèmes, peut-être avec plus d'énergie, ou tous les chefs d'entreprise, que ce soit en agriculture ou autre, connaissent ça. L'entrepreneur, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, quand on est plusieurs, on peut absorber les couacs. Et puis, il y en a toujours un ou deux qui ont plus d'énergie que les autres, qui vont prendre à bras le corps le problème. Ou dans une entreprise où chacun a sa place, chacun a son poste, et ben forcément, les responsabilités sont partagées sur ces postes-là. Donc, c'est plus facile. Nerveusement, c'est plus facile. On emporte peut-être moins de choses à la maison. Voilà.
À l'origine de notre envie de se pencher sur le monde agricole, paysan, c'était aussi de remarquer que qu'il y avait autour de nous et dans nos régions qui sont quand même des régions rurales et principalement agricoles, on remarquait qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient aussi en surmenage et qui étaient assez démunies en fait face à la tâche qu'ils avaient et le peu de reconnaissance ou en tout cas des difficultés concrète à vivre et avoir des ressources suffisantes. Est-ce que vous, justement, ça a été le fait de pouvoir vivre convenablement et mener votre activité convenablement, est-ce que ça a été déterminant dans votre choix d'être en équipe ou pas ?
Oui, c'est un choix, mais ce qui est prépondérant à ça, puisque nous, notre exploitation, je parle de moi du coup là, notre exploitation fruitière, elle nous permettait de vivre convenablement. Par contre, la pression psychologique, le poids, alors je ne saurais peut-être pas définir de quoi, mais là, ça devenait difficile à garder la tête haute, en fait. Ça devenait difficile d'être fier de soi. Il y a une pression sociale sur les agriculteurs qui est quand même assez terrible. Du coup, quand il y a certaines difficultés qui surviennent sur l'exploitation, difficultés économiques, techniques ou voilà, financières, et ben en fait, le fait de ne pas être reconnu, comme vous disiez tout à l'heure, d'avoir l'impression de toujours mal faire, de jamais faire assez, de jamais produire jamais assez propre, produire jamais assez beau, produire jamais assez, je sais pas trop quoi d'autre, mais... Jamais assez, quoi. Et ça, c'est difficile. Très, très difficile.
Ça vient d'où, selon toi ? Cette pression-là, qui c'est qui la...
Qui c'est qui la porte ?
Qui la diffuse, qui la génère,
ouais. Tout ça ? C'est compliqué. Je pense que il y a des différences dans les territoires reculés que dans les grandes vallées de production, peut-être. Et encore que. Et moi, il y a quelque chose qui m'embête profondément, c'est les publicités du toujours moins cher. Je trouve ça inadmissible que quand on parle de fruits et légumes locaux, français, on entende des publicités du toujours moins cher. Parce que le mardi, c'est Leclerc, le mercredi, c'est Lidl, le jeudi, c'est Carrefour, le vendredi, c'est encore un autre, Aldi, j'en sais rien, j'ai dit assez de marques pour qu'on n'ait pas d'ennui, je crois, là. Mais il y en a toujours un qui fait moins cher, c'est diffusé sur toutes les ondes. Le client, pour moi, il ne sait plus le prix des choses et il n'a en tête que le prix de la promo, quoi. Nous, en tant qu'agriculteurs, on va avoir des difficultés à créer de la marge et donc à valoriser nos entreprises si les consommateurs ne sont prêts qu'à payer le prix de la promo. Ça ne peut pas faire ça, ce n'est pas possible. Mais il y a beaucoup de facteurs, il y en a tellement, mais celui-ci m'énerve particulièrement.
Et comment... On pourrait faire d'une certaine manière pour changer cette approche-là, de la valeur en fait de la production agricole.
Je ne sais pas trop.
Est-ce que ce serait que les producteurs, productrices aient plus d'aide extérieure ou est-ce que ce serait d'avoir des prix aussi qui soient plus fixes et plus...
C'est très compliqué. Moi c'est vrai que Je suis pas syndiquée, je gravite pas dans ces milieux-là et du coup je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants de la filière pour me permettre d'émettre des avis comme ça. Est-ce qu'il faut un prix plancher ? Est-ce qu'il faut interdire ces publicités ? Déjà, moi, ça me paraîtrait pas mal. Mais il y a tellement d'autres sujets, mais je ne suis pas assez formée pour vous parler de ça.
Comment vous faites-vous pour valoriser votre production ?
La vente directe, ça, c'est notre activité, pas principale, mais c'est celle qui nous tient à cœur. Nous, donc, dans la famille, on fait les marchés depuis 60 ans, on va dire, à peu près. Donc, on connaît bien ce monde-là, de la vente directe, et c'est vrai que ça permet d'expliquer ce qu'on fait, d'expliquer comment on travaille, surtout, aux consommateurs. Et ça, c'est une partie plaisante, parce qu'il y a un lien de confiance, et puis on peut expliquer aussi pourquoi, bah tiens, tel fruit, il a une marque là, et ben, il n'est pas moins bon, mais... Ben, le gel de ce printemps, par exemple, a créé des cercles sur les fruits ou a créé des malformations. C'est des choses qu'on peut expliquer.
La semaine dernière, je suis allée faire l'interview de Eric Cabouni, qui travaille à AgroBiodrome.
Oui, c'est très, très près de chez moi.
Est-ce que pour vous, vous auriez un intérêt à aller aussi vers ce genre de structure qui permet d'envoyer en quelque sorte la production plus loin?
Souvent, quand on passe un contrat avec un grossiste ou avec un supermarché, par exemple, qui travaille en direct avec le producteur, souvent les débuts de relations sont plutôt bien et on arrive à avoir des prix corrects. Et puis après, le temps passe et puis on s'habitue et on nous demande souvent de baisser les prix parce que y a de la concurrence, je ne sais pas comment, de droite, de gauche. Parce qu'il faut toujours prouver par quelque chose et garder sa place. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, c'est qu'il est grossiste et producteur, donc il peut comprendre aussi ce qui n'est pas vrai chez tous les grossistes, mais du coup, là, qu'il peut comprendre les contraintes de production. Ça, c'est quand même unique et très intéressant. En plus, c'est un grossiste qui est ultra local, qui est sur l'Auriol. Donc, oui, c'est toujours intéressant.
Je pense à ça parce que, justement, on était dans un contexte qui faisait que, pour des questions techniques, je ne pouvais pas... l'interrompre en quelque sorte et prendre la parole pour lui poser certaines questions qui me tenaient à cœur pour réagir à ce qu'il disait. Et du coup, c'est vrai que je suis un peu passée à côté de certaines réflexions qu'on aurait pu mener tous les deux. Mais justement, lui me parlait de l'importance que ça pouvait être pour les agriculteurs et les agricultrices d'avoir la possibilité d'être sur du long cours et de ne pas... compter que sur la vente directe.
Oui, ah, mais il ne faut pas mettre ses deux pieds dans les mêmes sabots, les œufs dans le même panier, enfin, tout ce que vous voulez. Non, c'est très important d'avoir un éventail de réseaux de distribution. Donc il y a la vente directe, les marchés, le réseau paysan, les paniers, les AMAP. Après, il y a les petits grossistes, là, et c'est très important, effectivement, de multiplier les réseaux, parce que on connaît des agriculteurs qui faisaient de la haute qualité et qui travaillaient avec les restaurants, par exemple. Et on a bien vu qu'avec le Covid, mars 2021, plus de restaurants à qui on vend la production. Donc c'est important d'avoir dans la manche plusieurs cartes avec je pense aux grossistes comme Agrobiodrome par exemple. Ce qui peut être intéressant, c'est pour les petits producteurs qui n'ont pas des volumes peut-être forcément gros par exemple, et ben des petites structures locales peuvent peut-être du coup les intégrer dans leur
production.
Dans leur réseau, alors que peut-être ils sont trop petits pour aller tout seuls démarcher le supermarché local qui travaille avec les agriculteurs, mais qui demande quand même un peu de suivi.
Quels avantages ça a selon toi d'être justement sur de la petite exploitation?
On reste maître, on croit qu'on reste maître de ses choix. Après, les choix, ils sont imposés par le marché, hein, clairement. Mais on a moins de... Il y a moins de charges de personnel, déjà. La gestion du personnel, c'est un vrai souci au quotidien quand on a des salariés, qu'ils soient CDI ou saisonniers. C'est une vraie charge mentale aussi, en plus du reste. Quand on est petit, on a de la flexibilité quand même. On arrive à s'adapter beaucoup plus vite à un changement de réseau de vente, par exemple. On a capacité de changer l'emballage. On n'est pas soumis à de la mécanisation sur l'emballage, par exemple. On fait tout à la main. Donc, c'est vrai que quand on est petit, s'il faut des caisses de 3 kg ou de 5 kg ou des sacs de... on peut changer rapidement et hop, on change en 8 jours. On a trouvé les nouveaux emballages et on change de créneau de vente. On est moins bloqué. Les très, très gros qui ont de la mécanisation, de l'industrialisation pour l'emballage, par exemple, ils sont contraints par leurs investissements, par leurs machines. Ils peuvent pas, ça se change pas comme ça.
Et probablement par leur investissement financier aussi.
Qu'il faut rentabiliser.
Tout à l'heure, tu as dit le mot autonomie. Justement, il y a probablement un lien aussi entre le fait d'être une petite entreprise, d'être sur une petite exploitation et de privilégier une forme d'autonomie locale. Est-ce que ça te parle ?
Oui, ça me parle et en même temps, la pression du marché, elle arrive jusqu'aux petites entreprises. La pression est telle, je pense, que même dans les vallées et un peu plus reculées, on sent cette pression du prix, cette pression du moins cher. Je pense que cette pression économique, cette pression du bas prix, elle, Elle arrive jusque dans les petites fermes. C'est ça qui est très dérangeant, puisque les produits sont souvent de bonne qualité et souvent difficiles à valoriser quand même. C'est dommage.
Tu disais que toi, tu n'étais pas syndiquée.
Non.
Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi ?
Je n'ai jamais pris le temps d'étudier ce que proposent les syndicats. Donc, je n'ai pas Mais il me semble que peut-être les petites structures ne sont pas représentées. Peut-être, mais je ne me suis pas... Alors, peut-être qu'un syndicat X ou Y dirait « Mais si, on défend les petits !» Sûrement, et j'espère. Mais... J'en ai pas, voilà, j'en éprouve pas le besoin. Et puis en plus, je trouve que les syndicats, du coup, ils créent des clivages et ils se tirent dans les pattes les uns les autres. Alors que je pense sincèrement que je vais rien inventer, mais l'union fait la force. Et que le monde agricole, c'est un peu pas chacun pour soi, mais c'est trop. Il n'y a pas assez de solidarité, je pense. Alors on l'a perdu. D'ailleurs, on a perdu, je pense, cette force qui faisait que les agriculteurs faisaient peur aux politiques dès qu'il y avait une crise agricole. Et je pense qu'on a perdu un peu ça, je trouve ça dommage, mais je ne peux pas me permettre plus de remarques que ça.
Selon toi, avant, il y avait plus de solidarité.
Peut-être plus de solidarité, parce que là, maintenant, on a tellement... Les secteurs agricoles sont tellement sectorisés, voilà, justement, c'est ça, on sépare l'aviculture, du niveau technique jusqu'à la communication, que tout chaque secteur d'activité a ses sections de travail, que ce soit en chambre d'agriculture, dans les syndicats, Il me semble que du coup, ça crée des barrières, en fait.
Vous êtes en lien avec d'autres producteurs, productrices ici dans la région de l'Auriol ?
Des producteurs classiques, traditionnels, oui, bien sûr. On aime bien en plus partager et puis découvrir ce que font les autres, ça permet de s'ouvrir et de dire, bah tiens, peut-être je peux gagner en technicité, je peux gagner en découvrir des productions aussi parfois qui sont faites à côté, qu'on ne connaît pas. On ne le fait pas assez. Non, je trouve qu'on ne le fait pas assez.
Ça me paraît être le bon moment pour mon deuxième enregistrement.
Ah, allez.
Un autre enregistrement, donc, qui est toujours un enregistrement de Danielle Meureau. Mm-hmm. Et au début, donc, on ne le comprend pas forcément, mais elle parle en fait des personnes qu'elle recevait en stage chez elle.
Parce que, bon, oui, il y a le travail. Mais il y a aussi la transmission par les discussions le soir à table. Et pour nous, c'était essentiel, ça. Qu'ils vivent avec nous pendant leur stage pour qu'on puisse transmettre, on va dire, peut-être notre idéologie de ce que c'est que l'agriculture, que la petite paysannerie.
Justement, moi, je voulais te demander, au tout début de l'interview, tu disais que tu étais attachée au mot paysanne en te présentant. Et pourquoi ? Et du coup, pourquoi cet attachement à la petite paysannerie ?
Eh bien, parce que on va dire que j'ai eu des gens qui sont passés à la maison et qui parlaient d'une entreprise. Une entreprise, ça veut dire que tu exploites. Et une exploitation, j'aime pas non plus le mot « exploitation ». Il y a des mots qui sont lourds de sens. Et paysanne, ça veut dire que je travaille simplement la terre, que je travaille et que j'aime les bêtes et que je vis. C'est une vie. C'est pas vraiment... Bon, oui, c'est un travail à la fois, mais j'aime pas ces termes. J'aime pas parce que c'est vraiment un choix de faire ça, quoi.
Qu'est-ce que tu dirais pour réagir ?
Que je comprends tout à fait ce qu'elle dit. Et c'est vrai que le mot exploitation, c'est pas beau. On a l'impression qu'on puise et qu'on détruit la ressource, quoi, en fait. C'est vrai que ce mot, il est pas beau. Alors, paysannerie, ça me plaît aussi. Mais comme je pense qu'il faut toutes sortes de fermes, des grandes et des petites... Et que pour les grandes, c'est un peu moins approprié. Moi, j'aime bien l'entrepreneuriat et finalement le mot entreprise agricole. À mon sens, il irait pour les petites et pour les grandes. Mais je comprends très bien qu'elle s'attache au mot paysan et je pense que c'est très très important qu'on se réapproprie ce mot-là. Effectivement, c'est un mot que, dont les agriculteurs avaient honte. Hein, ça revient tout doucement, mais c'est eux qui ont fait la valeur de notre pays, hein, qui ont créé un beau pays comme le nôtre, multiple, varié, avec des paysages magnifiques à entretenir. Et on voit bien que quand il n'y a pas de paysans, pas d'agriculteurs, eh ben, qui s'occupe du ruisseau au bidule? Il n'y a plus de fossé, ben oui, parce qu'avant c'était les agriculteurs qui les entretenaient. Voilà, ça pose des vrais problèmes pour la gestion de l'eau, de tout. Voilà. Et moi je suis attachée à l'entrepreneuriat.
Et Danielle parle de transmission. Du coup, les personnes qui venaient en stage, elle aimait donc les accueillir chez elle, de sorte à ce qu'il y ait tout un tas de discussions et qu'elles puissent transmettre une certaine forme d'agriculture. Est-ce que vous, ici, vous essayez de transmettre ce que vous faites?
Ah oui, c'est important. Nous, on reçoit beaucoup de demandes de stage. On reçoit des stagiaires, pas autant que ce qu'on voudrait, puisque pour l'instant, on n'est pas à temps plein sur cette activité-là et que du coup, quand on reçoit un stagiaire, on s'attache à ce qu'il ait des choses à voir, que ce soit le bon moment et puis qu'on soit présent pour lui, justement, pour qu'il apprenne quelque chose. On va pas profiter du stagiaire, hein, on va échanger. C'est pas de la main d'œuvre gratuite, un stagiaire, il faut les aider, les jeunes, il faut qu'ils aient envie. J'ai plus le chiffre en tête, mais le nombre d'entreprises agricoles qui vont fermer là sur les 5 prochaines années, c'est terrible. C'est terrible, il faut que les jeunes aient envie, qu'ils découvrent la modernité du monde agricole, que c'est un métier qui est passionnant parce qu'il lie à la fois les valeurs traditionnelles et les méthodes traditionnelles et des méthodes novatrices. Et il y a peu de métiers finalement qui peuvent mixer les deux. Je trouve que le métier de paysan, c'est respecter tout ce qui a été fait depuis des dizaines d'années, des centaines d'années, toute cette expérience-là. Et puis en même temps, c'est intégrer des méthodes nouvelles, innovantes. Alors ça a été beaucoup pour gagner du rendement. Maintenant, en 2020, on veut aussi récupérer des valeurs environnementales et c'est tant mieux. On veut mettre cette technologie-là au service du mieux, mais dans tous les sens du terme. Et c'est bien que ce soit arrivé. Et je pense que c'est un métier du coup qui est très très intéressant, quoi. Mais il faut leur expliquer aux jeunes, il faut leur dire. Alors nous, pour l'instant, on reçoit plutôt des personnes qui sont encadrées par le milieu scolaire. Parce que tout simplement, on n'est pas à 100% du temps sur Carpe Capucine pour l'instant.
C'est des jeunes de la MFR.
Voilà, MFR, on a eu quelques BTS, alors que ce soit maraîchage ou pisciculture. On a eu aussi protection de la nature. L'activité de l'aquaponie, ça offre un panel d'activités qui fait qu'on peut recevoir de nombreux stagiaires dans de nombreuses spécialités. Et ça aussi, c'est très intéressant pour nous.
Si vous aviez quelque chose à transmettre à ces jeunes qui cherchent à se lancer dans l'agriculture, qu'est-ce que ce serait ?
J'aurais envie de leur dire peut-être qu'il faut s'écouter soi. Il faut s'écouter soi dans le sens que quand on a une idée, qu'on est motivé, il y a tellement de choses qu'ils pourraient faire qu'il ne faut pas y aller. Moi, je parle de l'aquaponie, là. Il y a tellement de choses, tellement de difficultés qui pourraient dire « Non, il ne faut pas y aller, là. Tu vas t'enterrer. » Mais en fait, il y a des moyens d'accéder à ses rêves et à ses envies. Donc, je pense qu'avant tout, il faut essayer pour ne pas regretter.
Vous, ici, vous êtes adhérente de Biovallée.
Oui.
Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi ?
On est adhérent Biovallée. Parce que la Biovallée porte le développement de l'agriculture biologique. Donc nous, on ne peut pas être labellisé bio, mais on va produire sans pesticides et sans antibiotiques sur les animaux. Donc on se rapproche naturellement des productions les plus vertueuses. Alors la différence entre le bio et le conventionnel s'est beaucoup atténuée ces dernières années. Les agriculteurs conventionnels ont été encouragés à produire mieux, ce qu'ils ont fait. Il y a eu aussi la limitation des listes de produits phytosanitaires qui ont entraîné leur moindre consommation forcément. Et puis voilà, donc il y a moins d'écart. Mais la Biovallée a une expérience, et puis parce que ça a commencé, je crois, il y a plus de 30 ans, le développement de la bio en Biovallée. Donc ils ont une expérience, puis un état d'esprit, d'ouverture qui est très intéressant. Voilà. C'est intéressant ce qu'ils font, ce qu'ils essaient de développer, l'autonomie, que ce soit l'énergie, que ce soit l'autonomie alimentaire. Ils travaillent sur de nombreux sujets qui... Il faudrait que ce soit, ces sujets-là soient quand même des sujets prioritaires, mais partout. Et eux, ils ont commencé il y a longtemps.
Est-ce que, à l'inverse, tu aurais quelque chose à redire de Biovallée, une critique à faire peut-être?
Non, j'ai pas une critique. C'est vrai que avant qu'on soit dans ce projet d'aquaponie, donc qui nous a rapprochés de la bio, du coup, et donc de Biovallée par les contacts qu'on a cherchés, par les... Et je me suis dit, mais mince, moi pour les fruits, je suis en conventionnel, en raisonné, enfin. Et je me dis, mais en fait, Biovallée, c'est pas connu, quoi. Nous, on est dans la vallée du Rhône, donc on est tout au bout de la Biovallée, du territoire. Et du coup, je me dis, ben, c'est... on ne sait pas assez ce qu'ils font.
De savoir ce qu'ils font, ça permettrait peut-être d'inciter plus de personnes à aller vers de la transition, vers de la résilience.
Peut-être. Peut-être ça les inciterait à trouver leur proposition.
Je te remercie.
De rien, j'espère que j'ai répondu à tes questions.
Oui.
Merci beaucoup.
Au revoir.
À bientôt, au revoir.
Thank you.